une perfection extraordinaire. Chaleur et lumière, tout à la fois, à leur bien-aimé. Je reprends le point de départ et puis nous continuons. Plaise à Dieu de m'accorder ici sa grâce. C'est tout à fait le début. Nous l'avions vu, mais je le reprends pour que nous ayons bien l'unité de cette troisième strophe. Car elle m'est bien nécessaire pour expliquer le sens profond de cette strophe. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui montre bien, c'est du reste très beau. Puisque c'est comme sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il donne ces versets, cette poésie. Et pour expliquer ce que lui-même a vécu, il comprend qu'il faut le secours de Dieu. Vous voyez, théologiquement, c'est très important à noter. Il y a les deux choses. Il y a les dons du Saint-Esprit, le don de sagesse qui nous fait entrer de plus en plus dans les profondeurs de Dieu. C'est le don de sagesse qui nous permet de dire « Père ». Et comme dit saint Thomas, commentant ce passage de l'Épître aux Romains, c'est l'expérience à laquelle on revient tout le temps. Et c'est l'expérience la plus profonde. Demeurer in sinu patris, dans le sein du Père. Et c'est bien le don de sagesse qui permet un exercice tout à fait divin de la charité et qui nous fait vivre cette filiation. Donc qui nous fait vivre le mystère de la paternité. C'est les dons du Saint-Esprit qui permettent d'avoir cette expérience divine et de pouvoir d'une certaine manière l'exprimer. Mais pouvoir l'expliquer, c'est ce charisme du sermo sapientiae. C'est pas la même chose. Et c'est très beau du reste de voir qu'il y a à la fois ce que saint Jean de la Croix a vécu et puis l'explication qu'il en donne. L'explication qu'il a donnée aux sœurs et l'explication que nous continuons de recevoir de lui et qui relève du sermo sapientiae, qui relève donc du charisme le plus élevé pour saint Thomas et pour la tradition, c'est pas propre à saint Thomas, pour toute la tradition, c'est le sermo sapientiae, c'est-à-dire pouvoir expliquer, pouvoir communiquer les secrets les plus profonds de notre âme, qui, sous la mouvance du Saint-Esprit, connaît cette expérience d'intimité avec le Père, avec le Verbe, avec le Christ et avec l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, on voit très bien saint Jean de la Croix qui fait ici cette remarque, plaise à Dieu de m'accorder ici sa grâce. C'est pas la même grâce que la grâce qu'il a eue quand il a vécu cela. Car elle m'est bien nécessaire pour expliquer le sens profond de cette strophe. Le lecteur devra procéder avec attention. Donc ça c'est pour vous. Car s'il n'a pas d'expérience, je dis pas que ça c'est pour vous, car s'il n'a pas d'expérience, il trouvera peut-être une explication quelque peu obscure et diffuse. Mais s'il a le bonheur d'avoir de l'expérience, il la trouvera claire et pleine de saveur. Alors j'espère que c'est pour vous ça, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais oublier, parce que ça c'est quand même très important. Prétendons pas, je crois personne d'entre nous, d'avoir vécu ce que saint Jean de la Croix a vécu quand il écrivit Flamme d'amour. Puisque c'est une des expériences les plus profondes de sa vie. Personne d'entre nous n'oserait dire « Ah oui, et Saint-Jean de la Croix, parce que j'arrive à la cheville de Saint-Jean de la Croix. Ce qui fait que on laisse les mystiques de côté. Je comprends très bien qu'il faut faire attention. Dans les Carmels, on ne donne jamais Saint-Jean de la Croix aux novices pour qu'elles ne s'échauffent pas la tête. Vous voyez, qu'elles ne te disent pas, on va apprendre par cœur Saint-Jean de la Croix. Puis on va réciter Saint-Jean de la Croix. Puis on aura vécu Saint-Jean de la Croix. Alors après, la pauvre maîtresse de novice ne pourra plus rien dire du tout, puisque on citera Saint-Jean de la Croix sans du tout l'avoir vécu. Donc on ne donne pas aux novices. Je comprends très bien. Ici, nous le regardons parce que nous faisons de la théologie. Quand on fait de la théologie, et surtout du Saint Thomas, il faut un contrepoids. Saint Thomas, c'est une rigueur intellectuelle très forte. On sait bien que c'est pas ça la vie mystique, c'est pas ce que nous dit Saint Thomas. Les conclusions scientifiques de Saint Thomas sont très loin du vécu de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et c'est très vrai, c'est très loin. Tandis que ce que Saint Jean de la Croix nous dit, c'est comme un appel. Et n'oublions pas que du fait que nous avons la foi, l'espérance et la charité, que nous désirons la voir, que nous avons soif de la voir, l'expérience de Saint Jean de la Croix n'est pas étrangère à notre vie de foi, d'espérance et de charité. Puisque pour Saint Thomas, on ne peut pas assister avec un peu de ferveur à l'Eucharistie. On ne peut pas rester 5 minutes avec ferveur sans qu'il y ait l'action des dons du Saint-Esprit. Donc l'action des dons du Saint-Esprit, je crois que si on en a le désir, l'Esprit Saint nous fait saisir certains aspects du mystère du Christ. Et par là, nous entrons dans ce que représente cette expérience intérieure profonde avec le cœur du Christ. Saint Thomas n'hésite pas, vous le savez bien, quand il essaie de définir ce que c'est que l'oraison, de dire que c'est l'exercice divin de la charité. Et que cet exercice divin de la charité nous fait comprendre comment Jésus est lié à notre âme d'une manière telle qu'il est comme l'époux et que notre âme est l'épouse. Pour Saint Thomas, l'exercice divin de la charité nous fait tout de suite vivre de cette alliance, du secret de la nouvelle alliance. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Mais nous sommes dans l'Église et nous avons donc cette expérience particulière et personnelle d'être dans cette totale dépendance d'amour à l'égard du Christ. Et ça, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose, si vous voulez, qui est vital pour nous. C'est que nous devons vivre profondément de cette expérience divine d'amour. Et c'est pour ça que Saint Jean de la Croix doit nous aider à réveiller en nous cette soif de vivre de l'alliance de l'époux et de l'épouse. De vivre avec Jésus dans cette intimité. Non pas l'imaginer, mais vivre de cette intimité avec Jésus. Vous voyez, et spécialement, si vous voulez, durant toute la Semaine Sainte. Pendant toute la Semaine Sainte, nous devons demander intensément à l'Esprit Saint la semaine sainte, où il y a une grâce particulière pour nous. Nous devons vivre de ce mystère de la croix, notre sagesse. Vivre de cette sagesse de la croix, c'est entrer profondément dans ce que Jésus lui-même a vécu à la croix pour glorifier le Père et nous sauver. Nous devons demander que ce que Jésus a vécu sur la croix, nous puissions le vivre autant que nous pouvons. Grâce à Marie, nous pouvons vivre, j'allais dire, le plus vite possible cette alliance d'amour. qui est nécessaire. Il ne faut pas dire, oh, moi je ne veux que l'expérience mystique. Non, 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 non. L'expérience mystique ne fait pas de nous des êtres paresseux. Dieu ne favorise jamais la paresse. Et donc, si vous prétendez que l'expérience mystique vous dit, oh, moi je n'ai pas besoin de théologie, pas besoin de catéchisme, l'expérience mystique me suffit, ça prouve que ce n'est pas tout à fait authentique. J'ai toujours remarqué que c'était les religieuses carmélites les plus contemplatives qui écoutent le mieux les prédications théologiques du prédicateur et qui veulent de la doctrine. Tandis que celles qui sont un peu farfelues, ça existe même dans les cloîtres, celles qui sont un peu farfelues, c'est-à-dire qui se prétendent mystiques et qui restent dans l'imaginaire. Alors celle-là dit, on n'a pas besoin, oh, je sais tout ça, oh, merci, oh oui, mais on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que vous dites. Je dis, non, en théologie scientifique, vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui allait plus loin que ce que disait saint Thomas sur la manière d'exister de Dieu. Alors là, vous dites, ça sent le roussi. Ça quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Parce que toute expérience mystique, authentique, nous rend très petits, très pauvres. Et nous donne un très grand amour de la doctrine. Un très grand amour de la doctrine de la grande Sainte Thérèse. C'est très visible. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et pour nous, nous devons faire de la théologie pour pouvoir transmettre l'évangile dans toute sa pureté. On ne prêche pas la théologie, on prêche l'évangile. Parce que l'évangile est toujours plus que la théologie. On prêche l'évangile, mais pour pouvoir prêcher correctement l'évangile. C'est-à-dire dans une très grande limpidité, la théologie est nécessaire. Autrement, vous prêcherez votre propre expérience. Et vous mettrez l'évangile à la sauce de votre expérience psychologique. Et ce ne sera pas très fameux. C'est vrai, c'est toujours le danger qui nous guette. C'est de prêcher son évangile, de prêcher son expérience. Et de ne pas découvrir le mystère de Jésus. Vraiment être témoin de ce que Jésus nous enseigne. Alors, je continue à entrer dans cette troisième strophe parce que elle est particulièrement doctrinale. Elle est particulièrement importante. Alors, ici, c'est toujours les profondes cavernes du sang. Et sur les profondes cavernes du sens, il y a toute une longue digression de Saint Jean de la Croix. Je continue. Aussi, lorsque l'âme sent qu'elle est placée dans le silence pour bien écouter, elle doit même oublier l'acte de cette attention plein d'amour dont j'ai parlé. Afin d'être libre pour ce que Dieu veut d'elle actuellement. La dernière purification, vous voyez, cette petite attitude réflexive. Je suis content de moi parce que je suis attentif. Ah, j'ai pas eu de distraction pendant ce temps, pendant toute cette oraison, j'ai pas eu de distraction. Très heureux, c'était merveilleux. Eh bien, il faut même dépasser ça. Parce que si vous restez dans cette conscience de votre attention, ce n'est pas la contemplation. La contemplation est plus pauvre. Hein. C'est toutes les pauvretés que Saint Jean de la Croix souligne. Là. Elle ne doit se servir de cette connaissance amoureuse que dans le cas où elle n'est pas placée dans la solitude, dans le repos intérieur, l'oubli de tout et la communication spirituelle. très très net.
Dans sa foi, dans son espérance et son amour.
Immédiatement après la ses idées sur un papier. C'était un dirigeant qui disait ça. Je vais pas beaucoup. Ça, après votre oraison, inscrivez toutes les idées que vous avez eues. Donc, c'est transformer l'oraison en méditation. Et alors, en théologie. Je vous ai déjà dit, la méditation nous enrichit, l'oraison nous appauvrit. Ça, c'est très net. La méditation nous enrichit. Ça, c'est sûr, c'est très enrichissant de méditer. Faire 3 heures de théologie par jour, c'est très enrichissant. Si on peut le faire. C'est bon, c'est apaisant, c'est merveilleux. 3 heures de théologie par jour. 2 heures le matin, 1 heure le soir. Pour être harmonieux. 2 heures de théologie, c'est très reposant. Quand vous écoutez des cours de théologie, vous faites 2 heures de méditation. C'est bien évident. Même si vous ne comprenez pas tout. L'oraison, c'est quelque chose de bien plus dépouillé. C'est pour ça que on reste quelquefois très attaché à la méditation, parce que ça nous enrichit. On est des propriétaires des idées. Alors on reste là, accroché. Tandis que l'oraison, il faut accepter délibérément. Assoiffée. Donc, elle doit être sans appui créé, à son poste, l'esprit dégagé de tout. Elle doit surtout accomplir ce que faisait le prophète Habacuc pour se préparer à écouter le Seigneur. Vous n'auriez pas pensé à Habacuc. Regardez Habacuc comme modèle. Et Saint Jean de la Croix connaît bien l'écriture. Je me tiendrai debout, dit-il. Et je serai sur mes gardes. Je demeurerai ferme sur mes remparts. Et je contemplerai ce qu'on me dira. C'est comme s'il disait, j'élèverai ma pensée au-dessus de toutes les opérations et de toutes les connaissances qui peuvent atteindre mes sens. Comme aussi au-dessus de tout ce qu'ils sont pu garder et retenir en eux-mêmes. Cela fait, je laisserai tout en bas. Je consoliderai mes pas sur les remparts de mes puissances et ne les laisserai accomplir aucun acte pour que je puisse recevoir par la voie de la contemplation ce qui me sera communiqué de la part de Dieu. Car, nous l'avons déjà dit, la contemplation pure consiste à recevoir. Oui, cette attitude, la contemplation pure consiste à recevoir. Mais recevoir, comprenons bien, ça ne veut pas dire la passivité psychologique. Ça veut dire cette attitude de la foi aimante qui a soif de recevoir le don de Dieu. Recevoir, c'est la soif de l'âme. Mais ce n'est pas, encore une fois, entretenir la méditation. Vous savez que c'est très difficile parce que notre langage est au niveau psychologique. Alors ça vaut beaucoup de peine d'exprimer ça. Il faut exprimer cette attitude de passivité. Il n'est pas possible que cette sagesse souveraine et ce langage de Dieu que l'on appelle contemplation puisse être reçu si l'esprit n'est pas dans un silence profond et détaché de toutes les consolations comme aussi de toutes les connaissances discursives. Connaissances discursives, donc la méditation. Vous êtes détaché de cela, appauvri de tout cela. Reconnaître que tout cela, c'est uniquement en vue de cette attitude de réceptivité, de recevoir ce don d'amour. C'est là ce que nous enseigne Isaïe quand il dit « À qui le Seigneur enseignera-t-il la science ? À qui fera-t-il comprendre sa parole ?» Il répond « À ceux qui sont sevrés de lait, c'est-à-dire des goûts et des saveurs. » vous adonner à la spiritualité. Enlevez de vos yeux les duvets et les fétus. Dissipez les brouillards qui les recouvrent. Purifiez-les. Le soleil brillera pour vous et vous verrez clair. Établissez votre âme dans la paix. Rendez-lui la liberté. Délivrez-la du joug et de la servitude d'Égypte, c'est-à-dire l'efficacité. De ses actes et son peu de capacité, car avec de telles occupations, elle ne fait guère plus qu'amasser des pailles pour faire cuire des briques. C'est bien le petit duvet dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un peu plus rude sans des briques. Donc au bout d'une demi-heure d'oraison, vous avez un petit tas de briques. Si vous restez pris par le souci et de méditer. Il y a toute une attitude intérieure qui est capitale et qui est merveilleusement dite. Il est capital d'avoir cette attitude de réceptivité, ne pas continuer, vous voyez, les raisonnements dialogiques. Ce sont des fétus de paille comparativement à cet instant de regard contemplatif. Même si, en une demi-heure, il n'y a que quelques minutes, quelques instants, où l'Esprit Saint le prend. On tend à ce désir d'être saisi par lui. Vous savez, le passage merveilleux de l'Écriture, hein, dans le Deutéronome, quand on parle de la manière dont l'air étend ses ailes et fait voler les petits sous pennage. On comprend très bien cette manière dont l'Esprit Saint nous éduque, parce qu'il veut que nous soyons sous son pennage et que nous ayons, j'allais dire, cette confiance infinie. Parce que avoir confiance à l'Esprit Saint, c'est une confiance infinie, sans mesure. Que c'est lui qui nous apprend à faire oraison, c'est pas nous. Nous sommes absolument incapables d'apprendre de faire oraison. Nous pouvons méditer, ah oui, devenir des spécialistes de méditation. Au bout d'un certain nombre d'années où on fait de la philosophie et de la théologie, on devient des spécialistes de la méditation. On n'a qu'à presser sur le bouton. Merveilleux. Et on n'est pas du tout pour cela. D'abord, on n'est pas des spécialistes de la contemplation. Ça n'existe pas. On est des tout petits enfants pauvres dans la contemplation. On est des mendiants de l'Esprit Saint. Et plus on laisse l'Esprit Saint agir, plus on sent sa pauvreté. Plus on sent que c'est uniquement l'Esprit Saint. Maître spirituel. Donc il parle au futur maître spirituel. tu m'as